Shalom ouvracha, shalom à tout le monde, boker tov, mesdames. Voilà, on se met en place. Yofi. Shalom, shalom. Mon temps, c'est bien.
C'est parti. Yofi. Alors, c'est parti. Eh bien, on est parti dans notre étude du livre de la Névoie, à savoir le Tanakh. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons passer au livre de Shoftim. Après deux cours sur Yehoshua, on a essayé de comprendre l'essence de la névoie de Yehoshua. Et bien maintenant, nous rentrons dans le livre numéro 2 du Nar, Sefer Shoftim. Et Sefer Shoftim, donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le chapitre 2, sur le chapitre bête du Sefer Shoftim, et il faut essayer de comprendre. Il y a une question qu'on doit se poser avant même l'ouverture du livre. La question, c'est à quoi ça sert Sefer Shoftim ? Et c'est une vraie question. À quoi il sert le livre de Shoftim ? C'est-à-dire que le livre de Yehoshua, il vient m'enseigner le Kibbutz Ha'aretz, la Itnachalut, le fait qu'on rentre en Israël et qu'on prend possession de la terre. C'est le rôle du livre de Yehoshua. Quand je parle de Shmuel, on va me parler de la royauté, de l'avènement de la royauté d'Israël. Le livre de Melachim, c'est justement l'histoire de la royauté d'Israël dans tous ses états. Après, on va avoir toutes les... Alors justement, tu dis, Alex, c'est une transition à la royauté. Mais toi, tu le sais parce que tu as vu Sefer Shmuel. Mais tu ne vois pas ça quand il y a marqué quand tu lis le Sefer Shoftim. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu vois qu'il y a une préparation quelconque à la royauté. Qui a écrit ce livre ? Eh bien, vous pouvez avoir la liste dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, qui a écrit chaque livre. Donc là, en l'occurrence, le Sefer Shoftim a été écrit par Shmuel. Shmuel Hanavi. Donc plus tard. Mais là, pour le coup, ce n'est pas ça qui nous dérange. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est tout simplement à quoi il sert. À quoi il sert ce livre ? Quel est le message premier du livre de Shoftim ? Rabotail, le message premier du livre de Shoftim, et c'est donc suite à cela qu'on aura besoin de ce livre-là, il est que Ubayamim Ahem Ein Melech Beisrael Ish Ayashar Be'enav Ya'ase. C'est un verset qu'on va retrouver très souvent dans ce livre-là pour conclure un événement. Ubayamim Ahem Ein Melech Beisrael. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord quand tu dis transition à la royauté ? Parce que, quelque part, dans le livre de Yehoshua, nous avons une royauté. Yehoshua est halachiquement Melech Israël. Donc, c'est pour nous montrer qu'il y a, dans le livre de Shoftim, une dimension de recul. Le livre de Shoftim vient nous expliquer que la vie est faite de Aliot, Avalgam, de Yeridot. Et donc, il va y avoir un plan général qu'on va retrouver à la fin de notre pérec, donc dès le début du livre, un système, un engrenage comme ça, un cycle qui vient nous dire « on ne se comporte pas bien, Dieu nous punit, on pleure, Dieu nous sauve, on ne se comporte pas bien, Dieu nous punit, on pleure, Dieu nous sauve ». C'est-à-dire que tout le livre de Shoftim, c'est ça. C'est cette dimension de « Aliya ve Yerida ». Et toute la question ne va pas être tellement de se concentrer. Peut-être la faute à Yehoshua qui n'a pas nommé de successeur comme l'a fait Moshe. Oui, mais tu es un peu dur avec notre ami Yehoshua. On va le revoir dans le chapitre. Okay, on va repasser sur la mort de Yehoshua dans le chapitre, donc on va y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas de faire des aliotes un moment de grande réflexion. Parce que lorsque tout va bien, c'est barour qu'on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu et que tout va bien. La grande question du Sefer Shoftim va être notre capacité, lorsqu'on étudie ces névoites-là, de prendre les Yeridot et d'en faire ce que le Rav Kook appellera Yerida Letzorech Aliyah, une chute pour aller encore plus loin, ce qu'on appelle en français reculer pour mieux sauter. Alors après cette introduction, eh bien, je vous propose, venez, on rentre directement dans le vif du sujet. Chapitre 2, verset Aleph du livre de Shoftim. Vayal malach Hashem min Gilgal el Labochim. Mazer Sipurazé, tout d'un coup, Vayal malach Hashem. Alors, il faut juste deux secondes remettre le chapitre dans son contexte. Dans le premier chapitre, eh bien, on nous fait une Tmunat Matsav, on nous fait une présentation de la situation après Yehoshua. Nous, on a terminé les Yehoshua en se disant qu'on avait conquis toute la terre d'Israël, Kol Tov. Eh bien, quand on lit le début du livre de Shoftim, on se rend compte que oui et non. C'est-à-dire qu'on a conquis la terre d'Israël de manière générale, on s'est implanté en terre d'Israël de manière générale, mais de manière particulière, c'est-à-dire chaque tribu dans, dans sa zone, ben, ce n'est pas évident. Si dans le sud, on a plus ou moins bien réussi à éclater nos ennemis, plus on monte dans le nord et moins on arrive à gérer nos ennemis. Alors, il y a une raison historique et on va dire, oui, archéologique à cela, c'est que dans les Knaanim de, on va dire, du Shomron, de la plage et du nord, ils avaient la maîtrise du fer. Au début de l'âge de fer, Troufat à Barzel, et archéologiquement, eh bien, on se rend compte que les Knaanim de cette zone-là maîtrisaient le fer. Nous, non. Pas encore. Et donc, c'est évident que lorsque tu es en guerre contre des gens qui ont des épées ou des Rechev Barzel, des voitures en fer, enfin des chars en fer, ce sont des tanks. Un char, qui est, enfin, c'est un char, c'est une espèce de voiturette tirée par des chevaux, mais si elle est recouverte de fer, c'est un tank. Parce que tu te caches dedans et tu tires avec des flèches, c'est un tank de l'époque. Donc, si tu veux, le fait qu'eux, ils aient des armes en fer et que nous, on n'ait qu'en bronze, eh bien, quand il y a interaction entre épée en fer et épée en bronze, il n'y a pas photo, hein. Le bronze perd. Donc, si tu veux, ça, c'est pour donner une explication plus historique et archéologique. Il va évidemment y avoir une raison beaucoup plus profonde. Alors, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. « Vayal malach Hashem min Gilgal el Abochim » Cette information nous dit que non seulement on est au début du livre de Shoftim, en termes de, bah, c'est le chapitre bête, mais on est aussi au début de la période des Shoftim. Les Philistins sont des Cananéens. Non, mais oui. C'est-à-dire que non, d'après leurs origines, puisque les Philistins, Pelishtim, veut dire que justement, ils ne sont pas d'ici. Les Flosh, ça veut dire les gens qui ont émigré, qui ont conquis. Donc les Plishtim, comme leur nom l'indique, ne viennent pas d'Eretz Canaan. Les Plishtim sont des Phéniciens. Bon, ils ne viennent pas de très loin. C'est-à-dire, les Phéniciens, c'est les Knaanim du Nord, si tu veux. Donc, ce n'est pas exactement des Knaanim, mais c'est quand même exactement la même culture. C'est-à-dire qu'on retrouvera les mêmes, le même panthéon idolâtre, les mêmes comportements, machin. Donc, non, à proprement parler, oui, en termes de culture et de mode de vie. OK ? Bekitsour, donc ce chapitre nous montre, puisqu'on monte, le Malach Hashem monte Mina Gilgal, eh bien ça veut dire qu'on est vraiment au début de la période des Shoftim. Ça ne sera pas toujours le cas dans le livre de Shoftim que la place dans le livre reflète l'avancée au niveau historique. C'est-à-dire qu'on va avoir des chapitres qui sont très anciens, début de la période, mais qui sont marqués à la fin du livre de Shoftim. Je pense par exemple à Pesel Micha qu'on étudiera beaucoup plus tard. D'accord ? Donc, c'est là, en l'occurrence, c'est et placé au début du livre et également placé au début de l'époque. Maintenant, faut pas se tromper. L'époque des Shoftim, c'est une longue période. Shoftim, c'est à peu près 300-350 ans d'histoire. Alors que Yehoshua s'est tiré sur 14 années, les Shoftim, c'est pas à un moment donné. C'est-à-dire, c'est 300-350 ans d'histoire, donc c'est une longue époque. La période que nous étudions un an est le début. D'où je le sais, bien parce qu'on vient du Gilgal. Le Gilgal était la capitale, si vous voulez, administratif du peuple juif lorsqu'on est rentré en Israël pendant toute la période de la conquête et de l'implantation pendant les 14 années d'Yehoshua. Mais maintenant, ça y est, on a tout fait passer à Shiloh. Le fait qu'on nous parle encore du rassemblement Gilgal montre qu'on est encore très proche de l'époque, du début de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que nos sages vont dire que c'est qui ce Malach Hashem ? Eh bien, ce n'est pas un Malach, mais c'est Pinchas. Pinchas, Ben Elazar et Cohen. Donc, on est vraiment dans cette époque charnière après la mort de Yehoshua. Vayal malach Hashem min Gilgal el Bochim, efoze Bochim. Bochim, c'est pas Bochim, c'est Bechia. Béchia, c'est un style de buisson. Un style de buisson qu'on trouve dans certaines régions. Lorsqu'on monte dans une région montagnarde, eh bien, on va trouver ce genre de petits buissons. Lorsqu'on va parler de Emek Abacha, c'est-à-dire Emek Abacha, c'est parce qu'il y a beaucoup de bochiot là-bas. D'un autre côté, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas faire l'allusion de Béchi, Béchia, des pleurs. Et c'est volontaire ici. Parce qu'on va voir ce qui va se passer ici. Et il est évident que on va comprendre doublement pourquoi cet endroit s'appelle Bochim. Et la Bochim, donc qu'est-ce qui se passe? Yomer, aletrem et mitzraim, va vietrem et la haret, asher nishbati la avotechem, va omar lo aferet beriti itrem leolam. Le malach, même si c'est Pinchas, le Meshané, rappelle au peuple juif que Dieu a passé un contrat avec eux, a passé une alliance avec eux. Cette alliance-là, eh bien, il ne l'enlèvera jamais. Alors pourquoi c'est important de commencer par cela? Parce que c'est quoi l'alliance en question? C'est la terre d'Israël. Donc, le malach est en train de nous dire, Dieu, lui au moins, et c'est moi qui rajoute le au moins, mais parce que je connais la suite, lui au moins, il réalise sa partie du contrat. Ça veut dire quoi, lui au moins? Eh bien, on ne peut pas commencer le livre de Shoftim si on n'a pas terminé le livre de Yoshua, évidemment. Nous, on a étudié que deux cours de Yoshua, donc que deux chapitres, mais ça me paraît évident que vous avez étudié tout le livre de Yoshua pour arriver au livre de Shoftim. Et donc, eh bien, vous savez ce que nous dit le dernier chapitre de Yoshua lorsque Yoshua propose au peuple juif en leur disant « Écoutez les gars, maintenant c'est le moment de décider où vous voulez servir Dieu, où vous allez vers la Avodah Zara. » Et Amisraël a dit « Non, on veut servir Dieu !» Et donc, sachant cela, Dieu dit « Voilà, moi, ma partie, c'est-à-dire mon alliance qui est de vous donner la terre d'Israël, moi, j'ai fait. « Ve'atem lotiretu brit le yoshve ha'aretz hazot misbechotehem titotzun » Velo shmatem bekoli mazot asitem. Alors, deux secondes, j'arrive sur la fin du verset pour arriver au début. Dieu nous dit velo shmatem bekoli. Lama. Donc, clairement, on est déjà dans une ambiance où ça part en cacahuète. C'est le début du livre de Shoftim, comme je dis, ça part en cacahuète. Lo shmatem bekoli. Seulement, Dieu nous a donné beaucoup de règles à respecter lorsqu'on va arriver en Israël. Pratiquement tout le livre de Dvarim, c'est la liste des choses qu'on doit faire quand on arrive en Israël. Il y en a plein des choses à faire. Et soyons honnêtes, quand Dieu te dit « Lo shematem elai », ce n'est pas sur un truc. Quand c'est « Lo shematem », c'est « Lo shematem ». C'est-à-dire, nous les Juifs, quand on y va à fond. C'est-à-dire, quand on est pour Dieu, on y va à fond. Quand on décide de ne pas écouter, c'est aussi à fond. Et donc là, on rejette pratiquement tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Dieu va choisir une chose. Et vous comprenez bien que c'est l'essentiel du propos de Sefer Shoftim. Quel va être l'essentiel de notre erreur qui va nous amener tous les problèmes? Et vous le savez bien, que Nevoa Sheutzrecha Ledorot Nirteva. Je posais la question tout à l'heure, à quoi sert le livre de Shoftim? Une névoie qui sert les générations est écrite, une autre qui ne sert pas les générations n'est pas mentionnée dans le Tanakh. Et donc, quelle est la névoie, la chose que nous n'avons pas respecté, ce que Dieu nous a dit de faire, c'est, je répète le verset, Ve'atem lo tirretu, au verset bête, lo tirretu brit le yoshve a aretz azot, misbechotehem titotzun. Le grand problème, c'est vous n'aviez pas le droit de créer des alliances avec les gens qui habitent ici et vous deviez détruire leurs hôtels d'idolâtrie. Le grand problème qu'on a, c'est l'enracinement culturel cananéen. Eh ouais. Et ça, c'est un problème en Botaï. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point cette névoie, elle est Utsrecha et Dorot. On est arrivé en Eretz Israël. Dieu nous dit, il y a des gens qui sont là, je ne veux pas que vous soyez comme ces gens-là. Alors, rentre dans le lotirretubrit, tout ce que tu veux. C'est lotitratenbam, c'est de ne pas faire des alliances militaires avec elles. Alors, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'il s'agit uniquement des sept peuplades cananéennes ou il s'agit, Bichlal, de tous les peuples du monde ? Là, pour l'instant, on va aller sur l'avis minimaliste. C'est-à-dire, le Rambam, il a changé d'avis entre son commentaire de la Mishnah et le Mishneh Torah. Dans le commentaire de la Mishnah, il a dit les sept peuplades cananéennes. Dans le Mishneh Torah, il a dit tout le monde. Mais venez, l'homme chané, on va se concentrer sur les sept peuplades cananéennes. Si on me dit « Vazavtem », vous n'avez pas écouté, c'est que « Ken karat nubrit im yoshvearet »« Vet misbechotam lotitatsnu » Nous avons une halakha de détruire les endroits de Avodazara. Mais pourquoi ? Pas seulement parce que Dieu il est canaï, mais parce que si tu laisses un endroit en place, tu lui donnes de l'importance. Et donc, si tu lui donnes de l'importance, tu vas également être influencé par cette force-là. Parce qu'il y a une force dans la Avodah d'Eretz Israël. Ah, la Avodah Zara de Eretz Israël, ce n'est pas de la Avodah Zara de Nyonyot. C'est de la Avodah Zara de Ligue des Champions. Yoshua, à l'époque, justement, à l'époque de Yoshua, on a conclu des alliances pas très clean, par exemple, avec les Givonim. Et ce n'est pas bien ce qu'on a fait avec les Givonim. Ils nous ont entourloupés, les Givonim. Et ce n'est pas bien ce qu'on a fait là-bas. D'ailleurs, tu remarqueras que dans toute l'histoire des Givonim, Yehoshua n'est pas mentionné. Semble-t-il qu'il n'était pas présent, ou du moins qu'on ne lui a pas demandé son avis. Et donc là, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que vous savez, c'est une halakha. Hein. C'est une halakha que nous devons détruire les lieux d'Avodah Zara en Eretz Israël. Alors, on ne va pas faire un cours de halakha là-dessus. Mais la question qu'on a en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui se passe avec toutes les églises qu'il y a en Israël ? Je vous rappelle, l'obligation de détruire les lieux de Avodah Zara n'a lieu qu'en Israël. On s'en fiche que les goyim en Chutz Laaretz, ils aient leur Avodah Zara. Mais en Eretz Israël, on n'accepte pas. Si on admet que le christianisme est de l'idolâtrie, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il faut détruire toutes les églises qu'il y a en Israël ? Alors, je vous demanderai de ne pas tout de suite sortir le marteau et le C4. On ne va pas tout de suite aller détruire les églises, pour une raison très simple. Ce n'est pas du tout évident que les églises répondent à ce critère de « il faut détruire les autels d'idolâtrie ». Parce que bien que le christianisme soit considéré comme une idolâtrie, pour nous, ça ne veut pas dire que c'est considéré véritablement comme une idolâtrie pour eux. Parce que certains des décisionnaires pensent que c'est ce qu'on appelle « avodah zara beshitouf », c'est-à-dire qu'ils ne rejettent pas Dieu, ils disent juste que Dieu il a des partenaires. Et ça, ce n'est pas évident que ça a été interdit pour les goyim. D'autre part, il faut bien penser non plus, également au Tadmit, à l'image de l'État d'Israël, qui si elle commence à détruire des églises, je ne suis pas certain que ça va vraiment aider à notre cause rabotaille. Mais il faut se rendre compte le pourquoi de le comment. Pourquoi est-ce qu'on nous a demandé de faire ça de manière générale, après les cas particuliers, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de faire ça ? Eh bien parce que sinon tu es pris par la force qu'elle représente. Et là, je tiens à le dire, parce qu'il y a une autre question qu'on doit se poser. Nous dit la Torah, « Ve'atem lo shamatem »« Ve'lo shamatem » Mais pourquoi « Makef »« Makef beze » Pourquoi est-ce qu'on continue à aller faire la Avodah Zara de Yoshvei Haaretz ?« Mazekashou » Quel rapport entre moi et Abal Vahashtoret ? On va le voir dans quelques minutes. Vegam amarti lo egaresh otam mipenechem veayulachem letzidim veelohem yulachem lemokesh. Puisque vous avez décidé de ne pas écouter, je ne déracinerai pas ces peuples-là et ils seront pour vous des épines dans le pied tous les jours. Et leurs dieux seront pour vous un moyen de chuter. Et je repose donc ma question que j'ai posée il y a 10 secondes. Lama shani avod avodah zara. Matov beze. Je vais te dire matov beze. Tu as déjà été à la synagogue ? Soyons très honnêtes, hein. Tu as déjà été à la synagogue. Quand tu as été à la synagogue, pour peu que le chazan ne soit pas top top, tu as trouvé que c'était une expérience enivrante ? Une expérience où tu es ressorti de là-bas, où tu as eu l'impression que plus vite c'est fini, mieux c'est. Pourquoi tu as des gens aujourd'hui, au 21e siècle, dans l'État d'Israël ? Alors, c'est pas de l'idolâtrie, c'est la nouvelle New Age idolâtrie. Des sessions juives. Et ils font de la méditation juive et ils sont en extase et ils laissent courir à leur corps et ils se touchent et machin. Et là, tout le monde y va. Hein, et trouve que c'est fantastique et ça le reconnecte avec ses énergies et c'est extraordinaire. Alors, tu peux me dire, soit ils sont tous débiles, soit c'est Bémet qui disent ils le ressentent pour de vrai. Soyons très honnêtes, tu vas à la synagogue, ce n'est pas une expérience vivifiante. Tu vas au Beth Amikdash, il y a eu un barbecue. Tu vas au Beth Amikdash, tu as du barbecue. C'est pas mal. C'est mieux que la synagogue, le Beth Amikdash, je suis d'accord. Alors tu vas me dire, non, mais il y a la Shrina et tout machin. Ça adhère. Ça, c'est que dans le premier. Deuxième Beth Amikdash, Shrina, l'Odea. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'ils proposent là-bas chez les Ovdei Avodah Zarah ? C'est beaucoup plus kiffant. Tous les sens sont en ébullition là-bas. Bon, d'abord, passage obligé, il y a des prostituées. Dans tous les temples d'idolâtrie, tu te fais un kiff. Après, tu donnes aussi à cœur joie tes pulsions sanguinaires. Korban Adam, Moler. Tu brûles un petit ambiance. Musique, extase. Tantrisme, comme diront nos amis d'Extrême-Orient. C'est-à-dire qu'il y a ici des forces en présence qui vont éveiller tous tes sens. Nous, Efoseyoter Chai. Alors évidemment, le problème, il est quoi ? Il est que toutes ces expériences d'utilisation de tes sens, le judaïsme ne te dit pas que c'est interdit. Il te dit juste qu'il faut le mettre dans le bon sens. La chavaya de plaisir et d'extase physique que tu ressens lorsque tu vas voir ta prostituée, la Torah ne te dit pas tu dois être un moine qui fait à prononcer ses vœux. La Torah te dit mais tu vas avoir ce sentiment-là avec ta femme. Non, pas dehors comme ça, avec ta femme. Tu l'auras également, mais c'est dans un endroit de Kdusha. Pareil, Shfichut Damim. Ah, tu as tellement envie de... Tu vas faire la Brit Mila. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que toutes ces forces-là, comme disait Yalta d'ailleurs, la femme de Rav Nachman dans la Gemara de Maseret Roulin, tout ce que Dieu a interdit, il l'a permis autrement. C'est-à-dire qu'il faut juste trouver comment est-ce que ces forces-là eh bien, peuvent être reliées à la Kedusha. Et c'est ça la Ta'ana du début du livre de Shoftim. Vous tombez parce que vous pensez que c'est plus kiffant là-bas. C'est juste que tu ne sais pas comment kiffer toi comme il faut. C'est-à-dire, utiliser toutes ces forces-là, n'en laisse aucune de côté. Mais mêler de sorte que ce ne soit pas que de la technique ou de l'extase du moment, mais quelque chose qui soit porté sur le long terme, sur la vie et sur la Kdusha. Et donc, eh bien, à ce moment-là, on nous dit quoi ? Vaï kedaber malach Hashem et adevarim ele el kol bene Israël. Vaïssou, aham et kolam, vaïfku. Lorsque tout le peuple a entendu les paroles du Malach Hashem, ils sont tous mis à pleurer. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a appelé cet endroit Bochim. Aval, Nahon, tout le monde s'est mis à pleurer. Mais est-ce que la Torah nous dit qu'ils ont corrigé leurs erreurs? Est-ce que la Torah nous dit qu'ils ont décidé de changer? Non. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que inhérent au Sefer Shoftim. Ça commence là et c'est pour ça qu'on nous met en garde dans le Sefer Shoftim. Mais quand tu regardes tout le long de la prophétie, quand Yirmiyahu Hanavi te dit « Mali Rov Zifrechem », c'est les mecs qui vont le matin faire Korban Tamid Shel Shachar, ils vont en Beth Amikdash, et l'après-midi, ils vont faire de la Avodah Zarah Moler. C'est-à-dire, Mbachou, Nahon, ils ont dit, oh waouh, wow, c'est Nahon, oh là là, c'est terrible, oh là là. Ah, tu viens ce soir, il y a une molaire partie, tu viens? Ah bah oui, oh, bah, évidemment. Et Mbachou, mais parce que c'est dans la même idée. C'est dans la même idée, c'est du show. C'est de l'extase rouchit. C'est les sens qui sont en ébullition. Il n'y a rien de pnimi, de profond. Le Havdil, elef alfe avdalot. C'est-à-dire, parce que là, la Zil Ben Atamel Ataor. Mais dans les différents styles de d'étude de la Torah, vous avez des styles du, je vais dire beaucoup le mot style, vous avez des styles du style Rabbi Nachman, la Chassidut. En fait, la Torah, on te l'accompagne de Ta'anoug Achushim. Tu vas faire un va à d'autres Chassidit, ça va manger, ça va chanter, ça va danser, et il y aura un cours de Torah. D'un autre côté, tu as certains shiurim, de certains rabbanim, les élèves du Rav Kouk, peut-être, où ça va être un shiur d'une omek incroyable, mais c'est ça qui marche. C'est-à-dire que ton corps, il est pas du tout, il participe pas vraiment à un shiur du Rav Nazir. Ta tête, elle va au monde supérieur, c'est barreau. Qui n'est pas le cas en général quand tu vas dans une va à doute. Mais il est temps de comprendre qu'on a besoin les deux. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé et ces rabbanim-là, et ces rabbanim-là. Parce qu'on a besoin de ce ribour entre l'extase des sens et l'évolution spirituelle. Et c'est ça que le livre de Shoftim va devoir nous expliquer. Vaikru shem ha-makom ha-hu bochim vaizvechu sham la-shem. Vaishalach Yehoshua et ha-am vaylechu b'nei Yisrael ish le-nachalato. Donc, vous voyez que là, on revient encore même avant la fin du livre de Yehoshua, parce que Yehoshua est toujours vivant. La rechet et ha-aretz. Vayavdu ha-am et ha-shem. Fait, kol kavod. Ouais. Psik. Virgule. Kol yame Yehoshua v'chol yame askenim. Asher erichu yamim achare Yehoshua. Asher ra'u et kol ma'ase ha-shem ha-gadol. Asher asa le-Yisrael. On revient sur le verset de la fin de Yehoshua, qu'on dit « Tout le monde a servi Dieu tant qu'il y avait Yehoshua. » C'est-à-dire tant qu'on se rappelait des moments où Dieu s'est dévoué à nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eh bien, notre Emouna Ba'Hashem et notre volonté de suivre Akadosh Baruch Hu marchent quand on a encore eh bien, les vestiges du show. Les vestiges de là où Dieu s'est officiellement dévoilé. Et quand il ne se dévoile pas officiellement, Azma, eh bien, semble-t-il que la période des Shoftim n'ont pas étudié cet enseignement fantastique du Rav Yehuda Ben Ishai, qui nous avait dit, je me rappelle, le lendemain de la Shiva de sa fille, de ses petits-enfants, la famille Fogel, il a dit, la Emouna, l'attachement à Dieu, on ne l'apprend pas quand tout va mal. On l'apprend quand tout va bien. On se blinde de Emouna quand tout va bien. Et comme ça, quand il y a un problème, eh bien, on saura le passé de Emouna. Et ici, c'est justement l'inverse qui vient de se passer. Quand on était face à l'extase du dévoilement, ben, on ne s'est pas vraiment imprégné de cela. C'est toujours la même idée que ce qui nous motive, c'est l'extase. Agave, le Rav Kook expliquera que c'est la raison pour laquelle pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de prophétie. C'est dans le Mahamar qu'il explique « Chacham Adif Minavi » où pendant 2000 ans, on n'a pas eu de prophétie et où le seul cli qui nous aide à comprendre ce que Dieu y veut, c'est le Sechel. Oui, mais je viens de dire qu'on a abandonné une grande partie de notre force. « Nachon » dit le Rav Kook, ça va revenir. Mais pourquoi est-ce qu'on a passé 2000 ans de pas sens mais uniquement Sechel, pour que lorsque reviennent les sens, parce que va revenir le dévoilement de Dieu, et les sens vont de nouveau être en ébullition, on sera passé par 2000 ans de Chorma qui nous aideront à garder la tête froide lorsque on sera face à des dévoilements extraordinaires. Et donc à ce moment-là, on nous dit comme ça, « Vayamot Yehoshua bin Nun, Eved Hashem, ben Meav Esser Shanim » ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר גש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם, וגם את מעשה אשר עשה לישראל. Donc on te dit, Yehoshua est mort, toute la génération de Yehoshua est mort, et c'est une nouvelle génération qui ne connaît pas Dieu. Et oh, qui ne connaît pas Dieu, מה זה לא ידעו את השם? C'est pas il y a si longtemps, c'est pas exagéré. Mais elles l'ont la date, elles l'ont chayim. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ils ont dans les archives. Ils sont au courant qu'il y a eu des trucs. Ils ne ressentent pas le dévoilement de Dieu. Alors, tu demandais tout à l'heure la question, pourquoi est-ce que Yoshua, il n'a pas donné un successeur ? Yala ! Bah, d'abord, comment ça se passe la succession à l'époque ? Eh bien, à l'époque, la succession, elle est très simple, c'est de père en fils. Yoshua, ce n'est pas le fils de Moshe, mais c'est Dieu qui a dit officiellement que c'est Yoshua qui allait devoir remplacer. Moshe, lui, voulait mettre son fils à sa place. Donc, s'il y a Dieu qui te dit à quelqu'un qui doit remplacer, ok, mais s'il ne dit pas, alors c'est ton fils. Le problème, c'est que Yoshua, il n'avait pas de fils. Il n'avait que des filles. Et c'est rare que le gendre arrive à s'imposer. En général, s'il n'y a pas de fils, ben on va devoir se battre pour la succession. Donc, il n'y a pas de successeur à Yoshua. En melech beisrael. Pourquoi en melech beisrael ? Parce que gam en malko shel olam. Parce qu'ils ne sont pas rattachés à melech malchei ha-melachim. C'est tout dans l'ambiance. Et donc à ce moment-là, Vayasu ben Israël et Ara ben Hashem. Vayavdu et Baalim. Il y en a plein hein, des divinités en Eretz Kenan. Il y a tout un panthéon, hein, c'est comme en Grèce, machin. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans la Torah qu'on voit que les Bnei Israël ils font la Avodah Zara, le nom de la Avodah Zara qu'il y a, c'est Baalim, Baal. Simplement parce que Baal, c'est le principal de la terre d'Israël. C'est le dieu principal de l'idolâtrie Made in Eretz Kenan. Du panthéon cananéen, c'est le patron. Mais c'est le dieu de quoi ? Et bien, donc, les Bnei Israël qui maintenant du désert, ils se disent que Yudke va vienne du désert, que c'est le dieu du désert. Maintenant, nous ne sommes plus dans le désert. Nous avons besoin de son alter ego, celui qui donne la pluie. Vous allez me dire, non mais attendez, c'est Dieu, Yud-Kevavke, qui donne la pluie aussi, Bakara. Hé, hey, Baro, c'est pas Baal. Ken. Valrabotai, je vous rappelle, c'est dur à dire, Baal, au-delà d'être une idolâtrie, c'est aussi un des noms de Dieu. Dans le livre de Hoshéa, où c'est marqué là-bas que viendra un jour où l'otikreili od Baali. Ça veut dire que Baal, c'est un des noms qui est utilisé pour le dévoilement de Dieu. Donc, dit le Rav Kook que à Kadosh Baruch Hu, personne ne peut s'attacher à lui directement. Donc on ne s'attache qu'à ses dévoilements. C'est quoi les dévoilements de Dieu ? C'est ses noms. Les noms de Dieu, c'est ses dévoilements. Ah, c'est déjà avant le Rav Kook, ce que Dieu dit à Moshe. Eye, shtachani achem. Eye, asher eye. Rashi te dira, tel qu'on m'appelle, comme ça je me le dévoile. Il y a des dévoilements qui sont officiels. Et il y a des dévoilements qui sont aussi des dévoilements du divin, mais qui sont rechokim yoter, parce que technique plus. Quand on parle de Yudke Vavke, c'est Havaya. Ve Elohim, c'est Midat Adin. Ve Tsevaot, c'est Midat Agvura. Ve Midat Amilchama. Ve. Ael Zechez. Donc ce sont des dimensions qui sont extrêmement premières. La force de la pluie, la force de... Ce sont des forces techniques. C'est aussi un dévoilement du divin, mais beaucoup plus éloigné. Et ça explique pourquoi les Bnei Israël, non seulement ils s'attachent à Baal plus qu'à un autre, mais ils vont également s'attacher là-bas, parce qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose d'amitié là-bas. Et on va voir à quel point ils ont cette intuition qui est bonne, les Bnei Israël. Ils la tournent très mal. Avodah Zara, c'est mal. Mais ils ont une intuition bigdoucha. On va voir de quelle intuition il s'agit. Regardez. Vayasu bene Israël et Ara bene Hashem vayavdu et Baalim. Vayasvu et Hashem Elohe Avotam amotzi otam meretz Mitzrayim. Vayelchu achare Elohim acherim. Me'Elohe ha'amim. Asher suvotehem. Vayishtachavu lahem. Vayachisu et Hashem. Azvu et Hashem. Donc ils le connaissent. Aval ozvim oto. Et Hashem. עכשיו, למה הם עושים את זה? הנה. ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל, צאון סבי דג'ה. לא, לא, תשמעו. ולהשטרות. מה זה השטרות? השטרות זה השטורת. השטורת, c'est d'après la mythologie babylonienne, c'est la femme de Baal. C'est-à-dire que les Bnei Israël comprennent que la dimension d'attachement au divin passe par la notion de zugiyut. Et c'est ça l'intuition extrêmement profonde. Car je vous rappelle que nous sommes Batzugosh et la Kadosh Baruch Hu. Nous sommes la femme de Dieu, entre guillemets, évidemment. Vous avez lu Shir HaShirim. Nous sommes celui qui dévoile Dieu sur terre en étant son partenaire. Ils ressentent qu'il y a cette dimension de zugiyut, mais le problème, c'est que c'est une zugiyut artzit. À Baal, c'est la pluie. À Ashtoret, c'est la déesse de l'amour. Sans vouloir être un tout petit peu freudien, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué de comprendre qu'on est complètement dans le motif, dans le rationnel de la fécondité et donc de l'acte intime, puisque la pluie, ce sont des gouttes qui vont rentrer dans la terre. C'est-à-dire, quand on a compris que Ashtoret, c'est la déesse de la terre et de l'amour, c'est-à-dire, on a bien compris de quoi il s'agit. Le dimouille est clair. Mais de quoi on parle ici? On parle d'une zugiyut qui est purement technique, purement artzit. Et il y a des fois des couples, malheureusement, qui, leurs relations entre lui et elle, sont purement physiques. Ça marche. Ça donne des vies, ça donne des enfants, machin, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a un couple. Il y a un couple pour dévoiler Kadosh Baruch Hu, pas seulement pour faire mécaniquement un enfant. Et donc ici, « Azvu et Hashem, ve'alchu la Baal ve'la Ashtarot ». En d'autres termes, « Azvu », si je devais prendre un mauvais exemple, ils ont abandonné leur femme et ont été voir leur maîtresse. Agave, c'est la comparaison qui est donnée dans chez nos sages pour parler de lorsque Am Israël fait l'idolâtrie, c'est Kmo kala shezanta tachat rupata. C'est il y a la dimension avec le Khatan, mais Azvou et dit. On a été voir la maîtresse et vous savez quel est le truc? La différence entre ta femme et ta maîtresse, c'est qu'avec ta femme, tu as des devoirs qui sont au-delà de simplement le plaisir physique. Ta maîtresse, c'est juste pour te faire un kiff. Bon, peut-être que ceux qui vont voir une maîtresse, c'est parce qu'ils n'ont pas le côté kiff avec leur femme. Bon, ça, c'est un autre problème, qu'ils ont essayé d'avoir un conseiller. Mais vous comprenez qu'il y a cette dimension de Azvou et Hachem. On est en train de rentrer en Eretz Israël et le grand défi est de ne pas tomber dans la Artziout Yetera, de ne pas tomber dans un trop-plein de physique. Et ça, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on va réussir à sortir de cette problématique? Vayasou ben Israël et Tara, donc on a dit verset Yud Gimel. Vayasvou Hashem vayavdou la Baal v'l'ashtarot. ויחרף השם בישראל ויתנם ביד שוסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. La punition, c'est quoi? Vous êtes en train de devenir esclaves de cette culture-là. Vous allez être bémaîtres les esclaves de cette culture-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, vous allez véritablement comprendre que Zélo Shelachem. À un moment donné, tu vas tellement te faire persécuter par justement le fait qu'on te dit de faire des choses qui ne sont pas ce que tu ressens comme étant toi, à ce moment-là, tu te rendras compte que, Bémet, ce n'est pas ça. « Bechol asher yetzavu yad Hashem haitabam le'raz lecha ka'asher diber Hashem lecha asher nishba Hashem lahem ha'yetzer lahem me'od. » Et là, eh bien, le chapitre 2 du livre de Shoftim, comme on a dit, nous donne, j'ai envie de te dire, la recette de Sefer Shoftim. Puisqu'on t'a expliqué, voilà, le défi, la recette de Sefer Shoftim. Puisqu'on t'a expliqué, voilà, le défi de Sefer Shoftim, et de ne pas, maintenant qu'on est un pionnier en Israël, ça y est, on est rentré en Israël, Yoshua, c'était l'implantation, la conquête, l'implantation, maintenant on y est, eh bien, Shoftim te dit, oui, ben attention, maintenant que tu y es, ne sois pas un esclave de ta réalité. T'en as besoin, ne la rejette pas. On a dit, on n'est pas les explorateurs. Je vous parle de ça au moment où c'est la paracha des explorateurs, où ils ont fauté parce qu'ils voulaient un trop-plein de spiritualité. C'est aussi une faute. Mais là, on te dit, tu es là, ne fais pas passer la Artsiout pour étant la seule et unique chose qui a de l'importance. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit, il y a un cycle. Qu'à chaque fois qu'on va être trop attaché à la Artsiout, eh bien, Dieu va nous envoyer un ennemi qui va nous rattacher complètement à cela et on sera complètement esclave, pas seulement de la terre, pas seulement de cette matérialité, mais esclave mamash, on nous enlèvera toute option de s'élever. Eved, ou pas tout, Minatora Kula. Mais c'est pas tout. Ou Tsarir la Asot, mais c'est la responsabilité de qui ? De son maître. Eh bien sûr. Donc là, on voit qu'il y a ce truc. Vayakom Hashem, Vayakem Sera Hashem Shoftim, Vayashium, Miyad Shosem. Donc, on va fauter. Dieu nous envoie des persécutions. Et donc, on n'est pas content. Vayitzer Lem Od. On est très mal. Vayakem Hashem Shoftim, Vayashium, Miyad Shosem. Ces Shoftim là, ces Nevi'im là, ont pour rôle de les sortir. De quoi ? Eh bien, de cette dimension de soumission, non seulement à leurs ennemis, mais à la terre d'Israël, c'est-à-dire à l'emprise trop de la Artsiout. Je ne veux pas que vous commenciez à comprendre que je dis qu'il faut s'aimer en choule. C'est barour que non. Il faut être ici. La Kedusha d'Israël, elle est irremplaçable. Mais il faut être conscient qu'il y a un danger d'un trop-plein d'implantation. Et donc, à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on te dit ? Eh bien, on te dit « Vegam el shoftehem lo shameo » Kizano achare Elohim acharim vishtachavu lehem vesaru maher min haderech asher halchu avotam lishmoa mitzvot Hashem lo asu ken vechi ekim Hashem lehem shoftim vaya Hashem im hashofet vehoshiam miyad oyvehem kol yomei hashofet ki inachem Hashem min hakatam mipnei lachatzehem vedochakem vaya bemot hashofet vehashuvu vehashchitu meavotam lalechet achare Elohim acharim leavdam lishtachavot lehem lo yipilu ממעליהם מדרכם הקשה. On nous dit voilà, donc il y a le problème, il y a le persécuteur, il y a le cri, il y a le chauffette est là, pendant le chauffette on arrive à l'itromem, et une fois que le chauffette part, c'est reparti et on retombe, et à ce moment là ben voilà, ויחרף השם בישראל ויאמר יען אשר עבדו עברו סליחה הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם לא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב עד שיהושע וימות. Donc rebelote. Ils seront re-persécutés. Lama. Lama kol ze. Eh bien, nous dit la fin du chapitre. Les ma'an nasot bam et Israël. Hashomerim et derech Hashem lalechet bam kasher shamru avotam im lo. Ils n'en tirent aucune leçon aussi. C'est faux. Ils en tirent énormément de leçons. La première leçon qu'ils tirent, mais c'est une notion qui est très importante, de comprendre que nous, on a peut-être rejeté l'alliance, mais toi, tu n'as pas le droit de la rejeter, Dieu. Après chaque délivrance d'un juge, je reviens à la charge. Nakhon, je sais. Mais ils apprennent quand même une chose. C'est que quoi qu'il arrive, ils peuvent toujours demander à Kadosh Baruch Hu de les aider. Tu aurais pu penser qu'au bout de 2-3 fois, ils disent « Bon, bah, ça y est, on va plus demander, hein, il ne va plus nous aider. » Non. On va apprendre du livre de Shoftim que la dimension d'éternité du lien entre Dieu et Amisraël prendre dans les problèmes. Ensuite, tu vas apprendre un autre truc qui est fondamental. Qu'est-ce que tu vas apprendre qui est aussi fondamental ? Eh bien, tu vas apprendre, par exemple, que... des fois, il faut aller contre le courant. Que ce n'est pas parce que Am Israël est en train de tomber que tout le monde doit tomber. Et qu'une personne peut relever le tout. Tu vas apprendre également la notion d'unité du peuple juif dans la douleur. C'est-à-dire qu'il y a plein de messages qui vont être imprégnés du peuple juif pendant le livre de Shoftim, qui, nous, on le sait, nous amèneront à la possibilité de la royauté dans le livre de Shmuel. Donc, ce n'est pas vrai. Nasod bam et Israël, Nisayon, rappelle-toi que Nisayon, c'est quelque chose qu'on passe et quelque chose qu'on apprend grâce à lui et qu'on grandit grâce à lui. Le man nasod bam et Israël, hashomerim emet derech Hashem lalechet bam kaasher shamru avotam imlo. Vayanach Hashem et agoyim ele lebilti orisham maher velo netanam beyad Yehoshua. Voilà le début du livre de Shoftim. Toutes ces nisyonotes vont avoir pour objectif, et on va le voir tout le long des différentes névoites centrales du livre de Shoftim, vont avoir pour objectif de nous préparer à pouvoir faire un dévoilement de la royauté divine beau, et ça sera dans le livre de la royauté, dans le livre de Shmuel, mais on n'y est pas du tout encore. Il va falloir maintenant qu'on passe cours après cours pour comprendre quelles sont les nisyonotes principales de cette génération des Shoftim, mais ça, c'est ce qu'on verra les prochaines fois. À bientôt et Shabbat Shalom.